Midi 31 sur France Culture. Le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. C'est un dossier vieux de 2 ans à l'origine. La Commission européenne estimait que le droit de la propriété intellectuelle en vigueur avait besoin d'être dépoussiéré à l'heure de l'Internet. Eh bien, a priori, c'est chose faite. Hier, les représentants des 3 institutions européennes se sont entendus sur une nouvelle version commune du texte adapté à l'ère numérique.
Au Venezuela, le gouvernement du président élu Nicolas Maduro apparaît de plus en plus asphyxié sur le plan économique.
Et hier, son adversaire, l'opposant Juan Guaido, a annoncé la nomination d'une nouvelle direction pour la filiale de la compagnie nationale pétrolière aux États-Unis.
Le Premier ministre tunisien est arrivé en France pour une visite de 2 jours.
Une visite destinée à sceller plusieurs partenariats commerciaux, mais pas seulement, il devrait aussi être question de lutte contre le terrorisme. Pensé comme le successeur du mythique 747 du rival américain Boeing, la 380, pourtant révolutionnaire lors de son entrée en fonction, n'aura jamais véritablement connu le succès escompté. C'est ainsi qu'Airbus a donc annoncé ce matin la fin de la production de son vaisseau amiral.
De son côté, Renault a soldé ce matin l'air Carlos Ghosn avec l'annonce d'une chute de 37% de son bénéfice net en 2018.
3,3 milliards d'euros, des bénéfices pénalisés notamment par une moindre contribution de son partenaire japonais Nissan. Enfin, dans une vingtaine de minutes, l'invité politique de la rédaction aujourd'hui, Martial Foucault, directeur du CEVIPOF et co-réalisateur d'une étude sur le sens politique du mouvement des Gilets jaunes. Et puis à 12h55, bien entendu, Olivia, ce sera la grande table des idées.
On va prendre la route avec une enquête en immersion dans la tribu itinérante des grands perdants de la crise de 2008 aux États-Unis avec la journaliste Jessica Broder, auteure de Nomadland chez Globe Édition.
Merci, à tout à l'heure. Comme nombre de réformes européennes, elles n'avaient pas échappé à la controverse qui le plus souvent donne lieu à une bagarre acharnée par lobbyistes interposés. Hier, les représentants des 3 grandes institutions européennes, Parlement, Conseil et Commission, réunis dans un trilogue, sont finalement parvenus à un accord informel destiné à réviser la directive sur le droit d'auteur adaptée à l'âge numérique. Ou comment assurer un meilleur équilibre entre les artistes, les éditeurs et les médias d'un côté, lesquels demandent à être mieux rémunérés, et puis les géants de l'Internet de l'autre, toujours prompts à défendre leur business model et rejoints en l'occurrence de manière assez inattendue d'ailleurs par les militants de la liberté sur le net. Cécile de Kervasdoe, bonjour.
Bonjour.
Alors pour commencer, rappelons peut-être quels étaient les objectifs donc de cette réforme et plus particulièrement les 2 articles sur lesquels les négociations butaient depuis des mois.
Ben, l'idée de la réforme, c'est de moderniser le droit d'auteur européen sur le numérique qui est encore soumis à des règles datant de l'an 2000. L'idée, c'est de faire participer les plateformes dont certaines, mais pas toutes, dont certaines font des milliards d'euros de profits en Europe à la rémunération des créateurs européens. L'article 11 instaure donc un droit voisin qui donnera la possibilité aux médias de réclamer le paiement d'une redevance aux plateformes qui agrègent et diffusent des extraits d'articles, comme le fameux Google Actualité. Et puis, il y a le fameux article 13 qui impose, lui, à toutes les plateformes à but lucratif qui partagent du contenu, de mettre en place des filtres afin de rémunérer les créateurs, notamment via des sociétés collectives de droits d'auteur qui, sachez-le, collectent et redistribuent les droits. Alors pour elle, ce matin, c'est une grande victoire. C'est ce qu'explique Hervé Rony. Il est directeur général de la SCAM, la Société Civile des Auteurs Multimédia.
Ça n'est pas contre l'innovation, c'est une logique de rémunération de ceux qui ont fabriqué une œuvre. Tout ce qui est à caractère amateur, je n'ai jamais le souvenir qu'on ait poursuivi qui que ce soit. En revanche, quand vous voulez commencer à développer une activité professionnelle, vous ne pouvez pas prendre 10 minutes du guépard comme ça, c'est pas possible. Si vous voulez créer une entreprise qui a pour objectif de faire circuler des œuvres au public, vous rémunérez ces œuvres. Quand vous créez une entreprise, que vous soyez start-up ou pas start-up, vous payez votre électricité, vous payez votre gaz, vous payez des impôts, donc vous payez les créateurs. C'est aussi simple que ça.
Et il faut préciser que ce texte remanié maintes fois pour tend aussi à protéger les petites plateformes, celles de moins de 3 ans d'âge, moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, moins de 5 millions d'usagers mensuels uniques, ne seront donc pas soumises à ce nouveau droit d'auteur, pas plus que les marques à but non lucratif ou en open source, comme par exemple Wikipédia ou GitHub.
Alors, précisons, Cécile, que l'accord trouvé hier ne signe pas tout à fait la fin de cette saga. D'une part, parce que la version commune du texte sur laquelle le trilogue s'est entendu hier doit encore être adoptée par le Conseil européen et les eurodéputés. et d'autre part parce que son adoption définitive conduira à sa mise en application directe dans les États membres. Or, c'est là que débuteront les innombrables complications.
Bah oui, en fait, c'est le cas avec chaque décision européenne. Elles doivent ensuite être traduites dans le droit de chaque État membre, ce qui laisse présager que le lobbying autour de la question va continuer, surtout du côté des entreprises du numérique. Christian Borgrin, vice-président et président de la CCIA, l'association qui regroupe toute l'industrie du numérique, et notamment Amazon, Google, Apple et Facebook, prévient que ça ne va pas s'arrêter là.
Cette nouvelle loi implique que les entreprises innovantes en Europe vont devoir investir dans des nouvelles technologies très coûteuses pour filtrer des contenus. Or, ces filtres sont imparfaits, car filtrer tous les contenus du monde, c'est mission impossible, particulièrement pour les entreprises du secteur. Donc, ça risque de nuire à l'offre même légale de contenu. C'est ce qui s'est passé en Espagne, quand le pays a voulu mettre en place ce type de législation. Google News, qui ne pouvait plus faire de profit, a quitté le pays. C'est le droit de l'information qui en a pâti.
Et Google a d'ores et déjà prévu que si la réforme est adoptée, l'entreprise fermerait Google Actualité partout en Europe.
Merci Cécile de Carvaz-Douai. Europe, toujours et encore, hier soir, après 3 ans de lutte, les 3 institutions européennes se sont également entendues pour interdire la pêche électrique à partir du 1er juillet 2021. Une décision largement saluée par les associations, même si les détracteurs de cette méthode de pêche jugée sauvage regrettent l'instauration de cette période de transition de plus de 2 ans. Et puis, autre motif d'inquiétude, l'introduction d'une clause de révision qui permettra une réouverture du règlement européen lorsque de nouveaux éléments scientifiques seront disponibles. Bruxelles a proposé hier d'ajouter 7 pays à sa liste noire pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Parmi eux, le Panama, mais aussi l'Arabie Saoudite. Riyad a aussitôt dit regretter cette initiative européenne qui devra toutefois encore recevoir le feu vert du Parlement européen et des États membres. Or, certains pays comme la France, mais aussi le Royaume-Uni, ont d'ores et déjà exprimé leurs réserves quant au fait d'inscrire le royaume dans le viseur de l'UE. S'agissant toujours de l'Arabie Saoudite et de ses relations diplomatiques tendues depuis l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi hier, les élus de la Chambre des représentants aux États-Unis à majorité démocrate ont adopté une résolution demandant à ce que Washington cesse de soutenir la coalition menée par Riyad au Yémen. Un nouveau camouflet donc pour le président Donald Trump, sauf que cette résolution doit à présent être soumise au Sénat, majorité républicaine cette fois-ci, puis surtout le chef de la Maison Blanche a lui-même d'ores et déjà prévenu qu'il aurait recours à son droit de veto si une telle résolution venait à être votée. Au Venezuela, tandis que le président élu Nicolas Maduro bloque toujours l'aide humanitaire américaine, le président autoproclamé Juan Guaido resserre lui un peu plus l'étau économique sur son adversaire. Hier, le chef de l'opposition a annoncé la nomination d'une nouvelle direction pour la filiale de la Compagnie nationale pétrolière aux États-Unis, où quand la malédiction du pétrole s'illustre une fois de plus dans un pays déjà à l'agonie, je vous propose d'écouter l'analyse de Paola Vasquez. Elle est chargée de recherche au CNRS.
C'est un coup dur dans la mesure où la vente de pétrole vénézuélien n'arrive plus dans les caisses de l'État vénézuélien. Et la conséquence pour le gouvernement de Maduro, c'est que c'est sa source de liquidité pour l'instant. Pourquoi ? Parce que les restes de la production pétrolière vénézuélienne, elle est envoyée en Chine. Mais elle a été déjà réglée parce qu'il s'agit de ventes à long terme qui ont été déjà réglées via des prêts placés dans des fonds et dont on a tout dépensé au Venezuela. Tandis que la seule source en liquide, c'était la partie de pétrole qui était vendue aux États-Unis. Ça peut avoir des conséquences pour la population vénézuélienne dans les jours qui suivent. La pénurie, voire la fin de l'essence et des carburants pour circuler dans les pays, parce qu'avec cet argent liquide, cette liquidité, c'est avec ça que le gouvernement vénézuélien, que la compagnie nationale achète de l'essence et du combustible qui est raffiné par ailleurs justement aux États-Unis. Donc on conduit vraiment à une crise encore plus profonde, mais du pouvoir lui-même, parce que déjà la population, elle vit dans des conditions presque comme celles d'une guerre. Ça va accentuer les choses, surtout pour le gouvernement lui-même.
Paola Vasquez, spécialiste du Venezuela et auteur du Chavisme, un militarisme compassionnel, elle répondait à Omar Waman. C'est l'une des attaques les plus meurtrières perpétrées contre l'armée d'élite du régime iranien. Hier, 27 membres des gardiens de la révolution ont été tués dans un attentat suicide. L'attaque à la voiture piégée visait un bus qui ramenait les membres de ce corps d'élite d'une patrouille à la frontière avec le Pakistan. Alors cet attentat a presque immédiatement été revendiqué par un groupe djihadiste nommé Armée de la Justice, considérée comme terroriste par Téhéran, mais surtout que l'Iran soupçonne d'être soutenu à la fois par l'Arabie Saoudite, le Pakistan et les États-Unis. Pourquoi ? S'agissant de Riyad comme d'Islamabad, précisons que la province iranienne du Sistan-Baloutchistan où s'est produite cette attaque compte une très large communauté de musulmans sunnites. Or, on le sait, l'Arabie Saoudite sunnite est aujourd'hui au Moyen-Orient le principal rival de la République islamique d'Iran chiite. Et puis, s'agissant des États-Unis, l'Iran accuse régulièrement son ennemi déclaré de soutenir les groupes séparatistes. Les autorités n'ont d'ailleurs pas manqué de souligner que cet attentat était survenu le jour même du démarrage à Varsovie d'une conférence organisée sous la houlette justement des États-Unis et dont l'un des objectifs est de mettre la pression sur l'Iran. Le Premier ministre tunisien Youssef Chahed est arrivé en France, une visite de 2 jours dans le cadre de la 2e réunion du Haut Conseil de coopération franco-tunisien. Avant sa rencontre prévue demain avec Emmanuel Macron, il doit s'entretenir avec son homologue Édouard Philippe. Ensemble, ils devraient signer un certain nombre d'accords dans les domaines notamment des transports et de la santé. Du moins, voilà pour le programme officiel, car cette visite a aussi d'autres ambitions. Nathanaël Charbonnier, bonjour.
Bonjour.
En l'occurrence, le Premier ministre tunisien entend bien rappeler à la France que son pays est bien plus qu'un simple partenaire commercial.
Ah oui, le Premier ministre tunisien le dit sans détour. Aider la Tunisie, c'est la meilleure façon pour l'Europe de se protéger.
Moi, je le dis pour l'Europe d'une façon générale. D'abord, en matière de sécurité, un pays comme la Tunisie, je considère que nous protégeons les frontières sud de l'Europe.
Et Youssef Chahed d'enfoncer le clou en expliquant que son pays a fait un travail énorme depuis la révolution de 2011, mais qu'il se trouve à un moment compliqué avec des défis économiques, avec des défis en matière de sécurité. Alors oui, aider la Tunisie, cela a un coût, mais l'enjeu est de taille.
C'est une démocratie qui est née à 1 heure de l'Europe, et donc il faut la préserver, il faut l'aider à se développer. Il ne faut pas traiter la Tunisie comme un pays. C'est une exception d'avoir une démocratie dans cette région du monde, avec un président élu au suffrage universel, avec un conseil supérieur de la magistrature, bientôt une cour constitutionnelle. Tout cela, c'est la mise en place de la démocratie tunisienne, ça a un coût. Et donc, c'est pour ça qu'il faudrait aider et se mettre avec la Tunisie pour assurer un avenir meilleur de cette région.
Aider la Tunisie, l'affaire est entendue, reste à savoir comment. Et finalement, les solutions sont assez simples. Il faut changer notre manière de voir la Méditerranée. La Tunisie est, comme les pays européens, une démocratie sur laquelle la France peut s'appuyer. Youssef Chahed.
La Tunisie, c'est une délocalisation de proximité ou proche qui permettra de pérenniser des emplois en Europe et en France particulièrement. Je connais des entreprises à Toulouse ou à Montpellier ou à Lyon qui devaient fermer, hein, faute de compétitivité, qui sont venues en Tunisie, qui ont créé des emplois en Tunisie, qui ont pérennisé des emplois en France. Ça a permis de faire face à une compétitivité accrue dans le monde. Ça, c'est un exemple de co-développement dans le domaine économique qu'on pourrait développer davantage.
Enfin, le Premier ministre tunisien n'oublie pas que l'élection présidentielle approche en Tunisie. Elle aura lieu à la fin de l'année. On lui prête d'ailleurs une ambition. Et rappeler à la France qu'il peut devenir le garant de la stabilité dans la région, c'est peut-être aussi le dernier message qu'il entend faire passer avec sa visite.
Merci Nathanaël Charbonnier. Quand l'avion de ligne le plus gros du monde a décidément bien plus que du plomb dans l'aile, ce matin Airbus a annoncé qu'il mettait un terme à son programme de très gros porteurs A380, entré en exploitation il y a 12 ans et qui n'aura jamais remporté le succès escompté. Alors évidemment, pour l'avionneur européen, la fin annoncée du Super Jumbo n'est pas franchement du meilleur effet au moment où son principal concurrent Boeing célèbre lui en grande pompe le 50e anniversaire de son 747. Reportage à Toulouse, signé Stéphane Iglesis.
Airbus aura finalement livré 234 commandes sur les 288 prévues d'ici 2021. C'est loin de l'objectif affiché en 2007 des 1200 appareils lors du lancement du programme. Le marché a évolué et les compagnies privilégient désormais les bimoteurs comme l'A350 ou le 787 Dreamliner. Guillaume Faury, futur PDG d'Airbus.
C'est pas la fin du programme, l'avion va continuer à voler, il est en service dans de très nombreuses compagnies et on va continuer à supporter ses clients. On a plus de 200 machines qui volent et Emirates a indiqué qu'ils allaient continuer à faire voler leur 380 au-delà de 2030. Vous savez qu'ils en prennent quand même 123 au total, donc c'est un chiffre qui est impressionnant. Alors oui, évidemment, il y a beaucoup d'émotions. Mais il faut regarder devant, on est à l'époque où la consommation carburant ou le respect de l'environnement sont très importants et les nouveaux bimoteurs modernes sont très performants. Et vous avez vu que la commande d'Emirates qui a été associée à la réduction du nombre d'A380, c'est des 330 Neo, c'est du 350 et ça c'est les avions de l'avenir.
Il y aura peu de conséquences sociales avec l'arrêt du programme A380 selon la direction d'Airbus qui indique aussi que jamais les résultats financiers n'ont été aussi bons qu'aujourd'hui.
Et j'ajoute tout de même que le président exécutif donc de l'avionneur européen a déclaré ce matin ne pas pouvoir garantir que le groupe conservera tous les salariés affectés au programme de l'A380. Au vu de la détérioration de son environnement, qu'il s'agisse du marché automobile mondial devenu plus difficile, mais aussi du scandale Carlos Ghosn mis en examen pour des malversations et abus de biens sociaux, le groupe Renault se fixe un objectif prudent de marche pour 2019. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
Le groupe aux Losanges tenait ce matin une conférence de presse au cours de laquelle il a notamment annoncé une chute de 37% de son bénéfice net en 2018. Plusieurs explications à cela, Hakim, en particulier la crise du diesel, mais aussi les vents contraires qui ont soufflé sur ces marchés internationaux.
Oui, un chiffre d'affaires en baisse de 2,3% qui s'explique notamment par la mauvaise santé du marché Afrique-Moyen-Orient, avec notamment la remise en place des sanctions en Iran, où Renault était très implanté, mais aussi par un recul du marché Asie du Sud-Est. À cela, il faut ajouter la dévaluation des monnaies, notamment du peso argentin, de la monnaie brésilienne, mais aussi turque. Au total, cette dépréciation des monnaies a coûté 2,2 milliards d'euros. Au groupe. Quant à l'avenir de l'Alliance, eh bien Thierry Bolloré, le directeur général, a rappelé qu'il était irréversible. Quant à savoir s'il y aurait une fusion, pas question. Et enfin, sur la fameuse question de la participation de Renault dans Nissan, pas question que Renault baisse ses actions au capital de Nissan. Thierry Bolloré.
Et la responsabilité qui est la nôtre est une responsabilité de continuité de cette œuvre. Je dirais que le meilleur hommage qu'on puisse rendre à M. Ghosn, c'est les résultats que Renault produit aujourd'hui. C'est le fait qu'on a une détermination farouche à continuer l'œuvre de l'Alliance dont nous avons un besoin absolument vital, et non seulement de la continuer, mais même de l'améliorer au sein d'un paysage automobile qui est en pleine mutation et qui nécessite d'adapter notre façon de fonctionner et d'adapter y compris nos constructions à ce nouveau paysage pour être toujours plus compétitif, plus fort et rendre les services qui sont attendus dans le domaine de la mobilité par l'ensemble de nos clients dans le monde entier.
Quant à l'avenir de Renault pour 2019, le constructeur veut rester prudent car la croissance européenne reste faible. À cela, il faut ajouter le Brexit qui pourrait avoir des conséquences sur les ventes, comme la mise en place de nouvelles normes environnementales et la hausse des matières premières, autant de raisons qui pourraient faire grimper le prix des véhicules. Quant au nouveau président du conseil d'administration de Renault, Jean-Dominique Senard, il est actuellement en route pour le Japon afin de voir ses homologues japonais de Nissan et de Mitsubishi.
Merci Hakim Kasmi ainsi qu'à Eric Gérard pour les moyens techniques. Ce n'est sans doute pas la Saint-Valentin qu'avait imaginé ses administrés ce matin. Alain Juppé, auteur notamment du dictionnaire amoureux de Bordeaux, a expliqué des sanglots dans la voix qu'il quittait sa ville qu'il dirigeait depuis près d'un quart de siècle pour, je cite, ne pas faire le mandat de trop. Alain Juppé prendra ses fonctions au Conseil constitutionnel début mars et démissionnera à ce moment-là de tous ses mandats. Invité politique de la rédaction aujourd'hui, Martial Foucault, directeur du CEVIPOF et co-réalisateur d'une étude sur la structuration politique du mouvement des Gilets jaunes. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Stéphane Robert, chef du service politique de la rédaction. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Une première question monsieur Foucault avant de parler de cette étude. On a appris hier soir qu'Ingrid Levavasseur, l'une des figures des Gilets jaunes, quittait la liste ralliement d'initiatives citoyennes dont elle devait prendre la tête pour les prochaines élections européennes, sans toutefois renoncer d'ailleurs à se présenter. Est-ce que cela vous surprend?
C'est difficile d'être surpris parce qu'on voit les conditions dans lesquelles cette liste a émergé sur un fond de contestation. Quelle est la personne la plus légitime pour conduire et figurer dans la liste? Donc je crois que en fait ce que ça révèle c'est la difficulté. On n'improvise pas une campagne électorale et aujourd'hui les conditions sont certainement pas réunies sur les revendications, c'est ce qui pourrait constituer une plateforme politique pour assembler la multitude de revendications qui ne font pas consensus parmi les Gilets jaunes. Et je crois que cette étape appellera également d'autres rebondissements sur la possibilité que les Gilets jaunes constituent une ou plusieurs listes pour ces élections européennes.
Une question de Stéphane Robert.
L'étude que vous avez co-réalisée avec le CEPREMAP, Centre pour la Recherche Économique et ses applications sur la structuration politique du mouvement des Gilets jaunes et de leur soutien, montre une évolution politique complexe de la société française. Déjà, peut-être, on peut parler d'il y a, une partition en trois de la société française avec un soutien de 30%, soutien fort, soutien modéré de 30% et un non-soutien de 30%. Qu'est-ce que ça révèle, ça? Qu'est-ce que ça dit?
Peut-être un point de précision. C'est vrai qu'on est depuis 3 mois dans les sciences sociales très, très embarrassés pour essayer de comprendre un portrait sociologique des Gilets jaunes. Donc on a pris le problème différemment en s'appuyant sur des données constituées au CVPOF sur un baromètre de la confiance politique dans lequel nous avons des éléments à la fois objectifs sur qui sont les soutiens aux Gilets jaunes. Et vous avez raison, il y a une partition en 3 groupes de Français par rapport au soutien. Et disons que plus de 50% accordent un soutien fort aux Gilets jaunes. Et donc, on a interrogé les Français autour d'éléments objectifs, classiques. C'est la sociologie électorale depuis 50 ans en France. Le niveau de revenu, la classe socio-professionnelle, le niveau d'éducation. Et on a remarqué que ces éléments, aujourd'hui, ne permettent pas de comprendre exactement, les mouvements d'opinion publique autour du soutien. Donc on a introduit des facteurs plus subjectifs qui recoupent les éléments sur le niveau de confiance interpersonnelle. Est-ce que les gens ont confiance dans leur voisinage, dans leur entourage familial, leurs collègues de travail? Et puis des éléments qui nous ont permis de caractériser le niveau de bien-être et de mal-être. Est-ce que les gens ont le sentiment qu'ils ont réussi leur vie? Est-ce qu'ils sont satisfaits de la vie qu'ils mènent? Et quand on associe ces éléments, on voit que ces éléments subjectifs nous permettent de mieux comprendre pourquoi les Français soutiennent massivement les Gilets jaunes et est-ce qu'il y a un recoupement entre les soutiens et les Gilets jaunes eux-mêmes. Et ce qui nous permet de dire, de façon très très simple, qu'aujourd'hui, ce qui caractérise ces Gilets jaunes et leur soutien, c'est plus des éléments de solitude, de souffrance vis-à-vis d'un monde qui est celui de 2019, plutôt que simplement un déclassement social. Et je crois que ça permet de changer la compréhension et l'interprétation qu'on fera des réponses politiques qui seront apportées après cette séquence du grand débat.
Est-ce qu'on peut parler du soulèvement d'une France malheureuse ?
Oui, c'est un petit peu ce qu'on avait observé en 2017. Vous vous souvenez, il y a toujours ces polémiques, notamment sur le parti Le Front National. Est-ce que ce parti est le premier parti des ouvriers ou pas? Et je crois qu'on se trompe sur cet élément. Ce qu'on avait pu observer, c'est que non, le Front National n'est pas le premier parti des ouvriers, il est avant tout le premier parti des classes malheureuses. Et on observe que vous pouvez être un cadre, CSP+, vivre dans le centre de Paris, avoir des revenus élevés, doté de capital social, culturel, et être malheureux. Le sentiment que la vie que vous menez ne vous convient pas. Et donc, si on garde la grille du passé, on dirait que cette personne, forcément, se retrouve dans la catégorie des gens qui doivent être heureux, qui ont confiance. En fait, c'est tout le contraire. On voit que c'est beaucoup plus parcellaire, et donc on a essayé de rassembler ces différentes catégories, comme vous avez des gens qui sont agriculteurs, revenus très faibles, niveau d'éducation faible, et qui ont le sentiment que leur vie est réussie aujourd'hui, et ils ont parfaitement confiance de façon interpersonnelle. On emploie ce terme pour dire, c'est pas une confiance vis-à-vis, puisqu'on parle beaucoup des représentants, des élus, c'est pas cela. C'est la confiance interpersonnelle, c'est la confiance dans le quotidien, dans ce qui fait l'environnement au quotidien, au travail et dans la vie de la cité de ces personnes.
Et donc, pour rentrer un peu plus en détail, vous montrez qu'il y a une proximité des Gilets jaunes avec l'électorat de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon, mais pas de correspondance complète, pas d'adéquation.
Non, on essaie de cartographier, d'illustrer géographiquement la France malheureuse et la France heureuse. Ce qu'on observe, c'est effectivement qu'il y a beaucoup de points de ressemblance sur 2 groupes d'électorat, l'électorat de Jean-Luc Mélenchon et l'électorat de Marine Le Pen. Ce qui est frappant pour discriminer, pour trouver les différences entre ces 2 électorats, c'est au fond, ils partagent une situation objective, un niveau de revenu faible. Mais il se démarque profondément sur un élément qui est le niveau de confiance. Et je crois que c'est très important parce que l'électorat de Jean-Luc Mélenchon a un niveau de confiance interpersonnelle beaucoup plus élevé que l'électorat de Marine Le Pen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une réponse est apportée par le gouvernement en termes de redistribution, la capacité de l'État par des instruments de redistribution d'améliorer le bien-être de ces 2 groupes, il y a un électorat qui est prêt à accepter et finalement à se sortir de cette sphère du mal-être pour aller vers le bien-être, c'est l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, parce que l'électorat et ceux qui soutiennent les Gilets jaunes et qui ont des préférences politiques proches du Rassemblement National considèrent que s'il y a de redistribution, ça ne sera pas pour eux. ça sera pour d'autres personnes. Parce que quand on n'a pas de confiance, on ne peut pas faire confiance à la capacité d'une politique publique de s'adresser à eux et sortir de cette sphère de la souffrance sociale.
Et puis ce que dit votre étude également, c'est qu'il y a une forme de disparition du clivage droite-gauche, en quelques mots.
Oui, disparition, c'est-à-dire qu'on observe plutôt ce qu'on appelait une sorte de diagonale des passions, plutôt que Hervé Lebras, géographe, parlait d'une diagonale du vide qui allait du sud-ouest de la France au nord-est. Nous, on observe que les éléments, j'allais dire, de positionnement politique sont totalement dominés par ces facteurs subjectifs. Et donc, on peut être de droite et de gauche et avoir un sentiment de mal-être. Et on peut être de droite et de gauche et avoir des niveaux de défiance très très forts vis-à-vis de son environnement au quotidien.
Et on terminera là-dessus. Merci infiniment, Martial Foucault, directeur du CVPOF, d'avoir été en direct avec nous, ainsi qu'à Stéphane Robert. On termine avec un mot rapide de météo. Soleil cet après-midi sur l'ensemble du territoire. Les températures en hausse, elles seront comprises entre 10 et 17 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. À 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.